Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elle peut être provoquée par différents agents pathogènes, virus, bactéries, champignons qui vont déterminer la nature du traitement le mieux adapté. La pneumonie peut être particulièrement redoutable pour les organismes les plus fragiles, les bébés, les personnes âgées ou celles dont l'immunité est défaillante, comme les malades par exemple. Et si aujourd'hui, cette infection respiratoire aiguë des poumons cause à elle seule 15% du nombre total de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde, d'après les chiffres de l'OMS, eh bien, la pneumonie peut être prévenue en ciblant plusieurs directions. D'abord, bien sûr, la vaccination, c'est en premier lieu, c'est une priorité, mais aussi l'hygiène, la qualité de l'air, notamment dans les habitations, en évitant le tabagisme et en aérant les pièces dans lesquelles du combustible est brûlé. Prévention qui passe aussi par une attention particulière pour les personnes en situation de déficit immunitaire, comme par exemple celles infectées par le VIH. Et quand l'infection est là, il est indispensable de consulter pour poser le bon diagnostic, lancer le traitement et éviter une confusion avec d'autres maladies pulmonaires qui risqueraient de retarder la prise en charge et de favoriser les complications. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la pneumonie. On en parle avec vous, professeur Jean-Damien Ricard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au chef de service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Louis-Mouria à Colombes, président du conseil scientifique de l'UFR de médecine Paris-Diderot, membre du groupe de recherche et d'enseignement en pneumo-infectiologie. Tout à l'heure, nous serons en ligne d'Abidjan. On retrouvera le professeur Bernard Coffin-Goran, chef de service de pneumologie au CHU Cocody, président de la Société ivoirienne de pneumologie. En fin d'émission, on va donner la parole à Stéphane Besançon pour sa chronique nutrition. Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et bien sûr, pour cette émission, on attend vos questions, on attend vos messages sur la page Facebook et appelez-nous au 33 80 82 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Jean-Damien Ricard, on va commencer, si vous le voulez bien, par la question clé du diagnostic, décrire les signes particuliers, les symptômes qui montrent, par exemple, qu'un patient souffre d'une pneumonie et pas d'une bronchite.
Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un continuum anatomique entre les bronches et le poumon profond. Et la pneumonie, sa définition, c'est vraiment l'infection du parenchyme pulmonaire. Et donc, elle s'associe à des signes qui sont distincts de la bronchite, même si au départ, une pneumonie peut commencer par une simple bronchite.
Pour la personne qui ne s'y connaît pas, ça veut dire qu'on va dire la bronchite, c'est plus haut.
Tout à fait.
La pneumonie, c'est plus bas.
De façon schématique, voilà. C'est exactement cela. Et on sait également que les mécanismes de défense sont pas exactement les mêmes au niveau des bronches que des alvéoles, donc le poumon profond. Et donc, ce qui va caractériser plus particulièrement la pneumonie, c'est justement l'atteinte donc du parenchyme pulmonaire, dont sa fonction est d'assurer les échanges gazeux et l'oxygénation du sang. Et donc, lorsque vous avez un territoire plus ou moins important du poumon profond qui est atteint par l'infection, bah forcément, ça ampute les capacités du poumon à oxygéner correctement le sang. Et donc, un des symptômes qui vraiment distingue les deux, c'est l'essoufflement, la dyspnée, parce qu'il y a une baisse dans la quantité d'oxygène dans le sang.
Est-ce que la pneumonie, c'est une maladie en tant que telle, ou plutôt c'est une complication quand on a eu avant une autre maladie?
Alors, ça peut être les deux. C'est avant tout une maladie en elle-même. Il faut savoir qu'elle atteint un très très grand nombre de personnes. Elle est responsable d'un très très grand nombre de décès par le monde. Dans un certain nombre de cas, évidemment, elle complique une maladie chronique, un déficit immunitaire ou simplement une atteinte respiratoire. Mais encore une fois, la plupart du temps, c'est une maladie en soi.
On va revenir à cette description très précise des symptômes. Mon enfant a du mal à respirer, on a dit, ce problème respiratoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe clair qui font pencher vers le diagnostic de la pneumonie?
Alors, ça va être donc évidemment une fièvre qui sera peut-être un petit peu plus soutenue que lors d'une simple bronchite, cet essoufflement, et peut-être aussi le fait d'arrêter un certain nombre d'activités. Vous n'allez pas forcément forcément repérer directement l'essoufflement, mais l'enfant va peut-être tout simplement s'arrêter de jouer de la même façon, et donc parce que ça témoigne de sa difficulté à respirer.
L'association de fièvre est systématique ?
Alors, dans un très très grand nombre de cas, la fièvre est présente. Il faut savoir que on sait que chez le sujet âgé, la fièvre est parfois absente ou moins importante. Donc, on ne n'éliminera pas systématiquement le diagnostic de pneumonie sous prétexte qu'il n'y a pas de fièvre. Il y a un autre point important, c'est que un grand nombre, soit de parents, soit d'adultes, vont s'automédiquer avec des antipyrétiques comme le paracétamol, et donc cela peut évidemment masquer la fièvre. Donc si jamais vous consultez parce que vous pensez éventuellement que vous avez une atteinte respiratoire et potentiellement une pneumonie, il sera très important de dire soit à votre médecin généraliste, soit au médecin des urgences, que vous avez pris des antipyrétiques, et essayer de dire à peu près à quel moment vous les avez pris, parce qu'on sait qu'ils ont une certaine durée d'action.
Est-ce qu'on voit aussi, quand on est atteint de pneumonie assez rapidement, une sorte de fatigue généralisée sur certains, par exemple les plus jeunes, une sorte d'atonie, il n'y a plus l'envie de jouer, on va dire, plus l'envie de manger, toutes ces choses qui font qu'on a un syndrome grippal?
Tout à fait, en sachant que en fonction des germes qui sont responsables de la pneumonie, on a des présentations différentes. Le pneumocoque, par exemple, est un germe très virulent et dont les symptômes sont extrêmement rapides, en quelques heures, et parfois même les patients sont capables de vous dire quasiment à l'heure près à quel moment ils ont vraiment senti les symptômes, une douleur dans la poitrine, une forte fièvre, des frissons. D'autres germes, ce qu'on appelle les pneumonies atypiques, avec des germes dits intracellulaires, sont beaucoup plus progressifs, un petit peu plus indolents, et dans ce cas-là, les signes sont moins brutaux et vont s'étaler sur quelques jours.
Comment ça se fait, professeur Jean-Damien Ricard, que certaines personnes aient aussi des troubles intestinaux, des manifestations digestives ?
Là encore, c'est lié au particularisme de certains germes. On sait que, par exemple, au cours de la légionelle, il y a assez fréquemment des douleurs abdominales, des diarrhées, et c'est ce qui permet justement, éventuellement, d'orienter le diagnostic, parce que les traitements ne seront pas les mêmes, et donc en attente des résultats éventuellement microbiologiques, ça sera important, si justement il y a ces signes digestifs, de prendre en compte, dans le choix des antibiotiques, la possibilité que ce soit une légionelle.
Alors justement, quand ce traitement est pertinent, professeur Ricard, combien de temps environ pour que la pneumonie évolue vers la guérison ?
Alors, on espère et on attend habituellement une disparition de la fièvre entre 24 et 48 heures.
Ah, c'est rapide.
C'est relativement rapide, et donc évidemment, le corollaire de cela, c'est que si jamais, après 2-3 jours, la fièvre est encore très importante, il faut se poser la question de savoir si l'antibiotique est adapté, et éventuellement réévaluer l'antibiotique, comme dans n'importe quel traitement de toutes les maladies infectieuses. Une des grosses recommandations, c'est bien évidemment la réévaluation du traitement.
Ça veut dire qu'au départ, le médecin risque de prescrire un antibiotique, ce qu'on appelle de spectre large, où il va aller faire une recherche plus pointue avec un antibiogramme, ces examens justement pour cibler le type de germe ou d'agent pathogène.
Alors, ça va dépendre un petit peu de la sévérité de la pneumonie et de savoir si vous êtes en ville ou à l'hôpital. Évidemment, à l'hôpital, on a tous les moyens de faire des prélèvements microbiologiques, et du coup, justement, si on a identifié une bactérie, d'attendre, d'avoir le résultat de sa sensibilité aux antibiotiques pour pouvoir les adapter. Évidemment, en ville, on va pas faire systématiquement des prélèvements microbiologiques, et donc c'est par argument de fréquence qu'on va choisir l'antibiotique, avec tous les éléments qu'on a pour évidemment orienter vers un germe en particulier. Et à ce moment-là, on sera bien évidemment attentif à la disparition ou pas de la fièvre. Il n'y a pas de traitement à large spectre comme ça en empirique, parce que vous imaginez que ça entraînerait une consommation et l'exposition à beaucoup, beaucoup de gens. On a déjà un gros souci d'antibiorésistance, et on ne ferait qu'encore plus l'aggraver.
Alors, est-ce qu'il y a des cas où, malgré le traitement antibiotique, il faut recourir à d'autres thérapies ? Je pense par exemple à l'oxygène.
Tout à fait. Ça correspond exactement à ce que je vous disais en introduction. Le fait d'avoir une atteinte du parenchyme pulmonaire fait que cette partie du poumon ne participe pas ou participe moins bien aux échanges gazeux et donc à l'apport d'oxygène. Et on comprend bien que plus ce territoire est étendu, et a fortiori si par exemple l'infection va toucher les deux poumons, à ce moment-là, oui, bien évidemment, il y aura nécessité d'apporter de l'oxygène pour suppléer la défaillance du poumon.
Alors dans ces cas-là, ça se passe en milieu hospitalier, professeur Ricard, ou on peut avoir même une petite bonbonne à la maison pour une assistance ? Comment ça se passe ?
Non, dans ce cas-là, c'est bien évidemment en milieu hospitalier, parce que cet besoin d'oxygène fait partie des critères critère de sévérité de la pneumonie, qui, dans un très grand nombre de cas, évidemment, a une issue tout à fait favorable, mais il faut savoir que la mortalité liée aux pneumonies graves avoisine quand même les 40%. Je parle évidemment de celles qui sont admises en réanimation. Donc évidemment, dès qu'il y a nécessité d'oxygène, ça veut dire hospitalisation en milieu spécialisé où on va pouvoir surveiller à la fois l'efficacité du traitement et le besoin éventuellement d'augmenter encore plus l'apport d'oxygène.
Alors justement, dans ces symptômes, c'est quoi les éléments qui déterminent cette gravité de la pneumonie et le moment où le médecin, le pneumologue se dit « là, je suis face à une complication grave ».
Alors, on a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier sont évidemment les signes respiratoires. Et plus la fréquence respiratoire sera augmentée, plus ça sera un témoin de la sévérité de la pneumonie. Ça peut aller bien évidemment jusqu'à la détresse respiratoire. Et puis, il y a des signes extra-respiratoires, des signes neurologiques. Alors, plus chez les sujets âgés, mais dès qu'on a une confusion, ça, c'est un signe neurologique. Et puis on a des signes également, ce qu'on appelle hémodynamique, lié à la pression artérielle. Et dès que la pression artérielle diminue un petit peu, c'est le témoin d'une infection sévère. Et dernier point à prendre en compte, c'est évidemment le terrain. Dès qu'on a une pathologie chronique, on a parlé tout à l'heure du déficit immunitaire, mais toute pathologie chronique est évidemment plus à risque de présenter une pneumonie grave et donc nécessitera un minimum d'examen à l'hôpital.
Précisément, des maladies associées. Est-ce que souvent la pneumonie peut survenir lorsqu'il y a une autre affection pulmonaire ?
Bien évidemment, parce que les défenses pulmonaires sont diminuées et donc la capacité au poumon d'éliminer naturellement les germes est altérée. Et dans ce cas-là, les infections sont à la fois plus fréquentes et à plus grand risque d'évolution vers la gravité. D'où la nécessité, dans ce cas-là, évidemment, d'hospitaliser pour faire un bilan très complet, quitte à faire ressortir les patients très rapidement après.
Professeur Jean-Damien Ricard, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Ce premier auditeur, il est en ligne de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, c'est Ousmane. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
On vous écoute Ousmane.
Oui, bon, en fait, bon, ma préoccupation, j'ai ma fille de 22 mois dort sous l'air conditionné, en fait. Maintenant, je pense que souvent, elle va dormir chez sa grand-mère. Elle, là-bas, elle ne dort pas sous l'air conditionné. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que des différents changements d'endroit et de commodité peuvent-ils provoquer ou entraîner un début ou une pneumonie chez elle?
Ousmane, avant de répondre à votre question, je voudrais vous en adresser une. Est-ce que votre petite fille est vaccinée? Est-ce qu'elle est vaccinée contre la pneumonie?
Ça, je ne pense pas. Non, non.
Non, elle n'a pas été vaccinée dans ses premiers vaccins des deux premières années qu'on fait au sortir de la maternité. Elle n'a pas été vaccinée.
Si, je pense que chez elle, elle doit faire au moins 11 vaccins comme ça.
Ah bah, si
non,
elle a...
je n'ai pas trop suivi. Elle a au moins 2 vaccins qui restent.
D'accord, parce que si elle a fait cette fameuse série des 11 vaccins, professeur Jean-Damien Ricard, dedans... il y a le vaccin, normalement, du pneumocoque.
Tout à fait. En sachant bien sûr que le pneumocoque n'est qu'un seul des pathogènes parmi tous ceux qui sont responsables des infections.
Mais c'est déjà une première protection très importante.
C'est évidemment déjà une protection très importante et on voit très bien dans toutes les études qui ont regardé l'importance du pneumocoque, il y a une réelle efficacité de ce vaccin avec une diminution notoire à la fois de l'incidence des pneumonies à pneumocoque mais également des complications qui sont liées à ces infections. Voilà. Maintenant, pour répondre plus précisément
l'environnement. Un bébé qui dort air conditionné, pas d'air conditionné, est-ce que ça peut changer quelque chose par rapport à sa santé respiratoire?
Alors, selon auquel il faut faire attention, c'est peut-être s'il y a une recrudescence de certains symptômes, c'est peut-être aller rechercher peut-être une maladie asthmatique. Si par exemple il y a une toux en fonction de la présence ou non de l'air conditionné, une sensibilité qui ferait qu'il y a peut-être une hyper-réactivité bronchique, donc une sensibilité un petit peu plus importante des bronches qui pourrait expliquer que de temps en temps vous observiez des symptômes et à d'autres moments non. De là à dire que ça favoriserait une infection, c'est un élément trop important. Et encore une fois, je pense qu'il faut se rassurer en disant qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont derrière cela, comme par exemple une hyperactivité bronchique ou un début d'asthme.
Alors, professeur Jean-Aimé Ricard, quand on a quand même une climatisation en général ou l'air conditionné, on aère moins, et ça aussi, c'est facteur de développement d'allergènes.
Oui, tout à fait, et l'air conditionné est souvent un air qui est sec, et donc on sait que ça va fragiliser les muqueuses respiratoires, et donc à ce moment-là, bien sûr, favoriser l'infection, notamment tout ce qui est infection virale.
Ousmane, est-ce que vous avez justement montré votre petite fille à un médecin par rapport à vos doutes, à vos questions sur la santé de ses poumons ?
Oui, bon, de temps en temps, elle commençait à tousser un peu. Mm-hmm. Puis je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit du Primalan. On m'a dit que non, c'est pas un truc qui est trop grave, mais de temps en temps, elle tousse, et puis bon, elle a souvent tousse aussi.
Du Primalan, donc c'est un médicament anti-allergique.
Tout à fait. Et donc ça correspond finalement à un petit peu à ce que je vous disais, ce que je pensais de ce qui pouvait justifier cette recrudescence à intervalles plus ou moins réguliers en fonction de l'endroit où elle se trouve, de quelque chose qui serait peut-être plutôt du domaine de l'allergie. Encore une fois, et surtout si le principal symptôme qui vous inquiète, ce que je comprends parfaitement, c'est la toux. Plus qu'autre chose. Est-ce que c'est une toux sèche ? Est-ce qu'elle a une expectoration très importante qui serait purulente ? À ce moment-là, évidemment, on s'orienterait vers d'autres choses.
Mais la question, c'est est-ce qu'une personne aussi, indirectement, est-ce qu'une personne asthmatique est plus fragilisée face à la pneumonie ?
Alors, ça va dépendre aussi de la sévérité de cette maladie asthmatique, et je dirais que c'est peut-être plus les conséquences après pour cette personne, si jamais elle développe une pneumonie, d'avoir une forme un petit peu plus sévère.
Voilà Ousmane pour ses réponses au sujet de la santé respiratoire de votre fille. Est-ce que vous avez une question supplémentaire ?
Non, c'est bon.
Très bien. Eh bien, vous souhaitez une excellente journée à Abidjan. On va partir pour le Burkina, pour Koudougou. On retrouve Souleymane. Bonjour Souleymane.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Voilà, j'aimerais savoir, par exemple, nous allons bientôt rentrer vraiment dans une période où souffle l'harmattan, quoi. J'aimerais savoir si l'harmattan vraiment n'a pas un impact, si ça ne cause pas à quelque chose de la pneumonie, bien si ça n'aggrave pas.
Avec aussi des sables qui sont charriés, des poussières qui sont charriées par le vent, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Professeur Ricard, est-ce qu'il y a un impact justement, là encore, question d'environnement, mais c'est lié au climat également, le Burkina, le vent, l'harmattan qui souffle, est-ce qu'il y a davantage de contexte de maladies respiratoires dans ce cas-là ?
Alors, comme ça, en analysant un petit peu les choses, on pourrait imaginer qu'on a effectivement un air qui sera beaucoup plus sec, éventuellement chargé de petites particules de sable, et donc on peut imaginer qu'on va assécher la muqueuse respiratoire, et donc encore une fois fragiliser l'ensemble de la respiratoire. De là, encore une fois, de pouvoir faire un lien de causalité direct avec la pneumonie est un petit peu difficile. Moi, je n'ai pas de notion d'étude qui est forcément étudié ce lien entre voilà épisode de grand vent comme ça chaud. En revanche, si on le rapproche aux épisodes de pollution atmosphérique, mais là on sait qu'on a un certain nombre de polluants atmosphériques qui sont beaucoup plus agressifs envers le poumon. À ce moment-là, on peut faire le lien. Mais encore une fois. Sur cette question de l'harmattan et du vent, en dehors d'une dessiccation un petit peu de l'épithélium, donc un assèchement qui fragiliserait cet épithélium, c'est le seul élément que je vois là comme ça.
Est-ce que vous avez d'autres questions, Souleymane ?
Oui, j'aimerais savoir si vraiment il y a des aliments qui vont renforcer l'immunité ou bien qui peut causer vraiment la pneumonie.
Alors, je me permets de vous poser cette question, parce que, professeur Jean-Aimé Ricard, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est la malnutrition. Pour toutes les maladies, c'est évident, ça favorise le développement des pathologies, mais peut-être encore plus pour ce genre de maladie où la fragilité des tissus ou de la muqueuse peut être en jeu.
Tout à fait, c'est exactement ce que là, j'allais évoquer. Alors, je vais déjà tout de suite répondre à une de vos questions. Moi, je n'ai pas connaissance, évidemment, d'un aliment qui provoquerait la pneumonie. En revanche, vous avez tout à fait raison. On sait que dans tous les pays à bas revenus économiques, les questions de malnutrition sont des éléments majeurs dans la survenue des affections pulmonaires. Et on montre très bien dans toutes les études épidémiologiques qu'il y a une corrélation très directe entre le revenu et les conditions de vie et l'incidence des pneumonies, à la fois incidence et malheureusement mortalité également.
Voilà donc Souleymane, bien manger pour être en bonne santé, ça vaut pour la pneumonie mais ça vaut pour toutes, bien sûr, tous les risques de maladie. On vous souhaite une excellente journée à Kourou au Burkina Faso. J'ai sous les yeux d'autres messages, ce sont des messages Facebook de nos auditeurs. Lutumba, qui vit à Kinshasa en RDC, pose cette question. Vous allez répondre, je pense, assez rapidement. Est-ce que la pneumonie est génétique?
Alors, il existe des déficits immunitaires d'ordre génétique qui ont été très très bien documentés et qui du coup fragilisent et exposent les enfants à des infections et notamment des infections pulmonaires. Donc cet élément de réponse, c'est dire oui, lorsqu'on a un déficit immunitaire d'ordre génétique, alors oui, on a plus facilement des pneumonies. Maintenant, encore une fois, compte tenu de la fréquence de cette infection, il n'y a pas de terrain génétique particulier qui ait pu être identifié lorsqu'on n'a pas de déficit connu.
Alors, autre question, et je suis très contente qu'il l'ait posée, c'est Aimé de Djamena au Tchad, parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot. La cigarette peut-elle être une des causes de la pneumonie? On n'a pas encore parlé de l'impact du tabac sur cette santé pulmonaire, c'est un comble.
Alors c'est effectivement un élément majeur. Les patients que nous voyons, nous, en réanimation pour une pneumonie grave et donc qui nécessite d'être en réanimation ont le plus souvent un tabagisme, qu'il était passif ou actif. Et donc c'est vraiment un élément de prévention majeur. On sait très bien que le tabac altère le fonctionnement du poumon dans l'ensemble de ces éléments, y compris de ses défenses contre l'infection.
Vous diriez que le tabac est un facteur pour la pneumonie ou ça favorise les complications?
Je pense que c'est l'ensemble, c'est-à-dire que encore une fois, compte tenu de l'ensemble des méfaits du tabac, c'est à la fois une fragilité vis-à-vis de l'infection et également un risque pour des complications.
On va poursuivre cet échange avec vous, professeur Jean-Damien Ricard, juste après une petite pause musicale avec Fatoumata Diawara et ce titre « Bonir ».
Hangana nyona maloya, demi zeno.
Fatoumata Diawara sur RFI Priorité Santé. On continue de parler de la pneumonie en votre compagnie. Professeur Jean-Damien Rica, membre du groupe de recherche et d'enseignement en pneumo-infectiologie. On a abordé en première partie de l'émission les symptômes, la prise en charge. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on revienne, professeur Ricard, sur le point clé de la prévention, parce qu'on peut agir à travers la sensibilisation. Tout à l'heure, je posais une question à un papa au sujet de la vaccination de son enfant. Informer justement sur cette vaccination, c'est quoi précisément le vaccin contre la pneumonie?
Donc, il y a évidemment beaucoup de pathogènes responsables de pneumonie, au premier rang desquels les virus, pour lesquels il n'existe pas de vaccination, en dehors du vaccin contre la grippe. Donc celui-là, bien sûr, est important, mais beaucoup de virus donne des pneumonies sans qu'il y ait de vaccin. Dans les bactéries, les deux vaccins qui ont fait sensiblement reculer le nombre de pneumonies sont le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre l'hémophilus, qui lui est donné assez systématiquement. Et donc, on voit maintenant dans les études que le vaccin contre le pneumocoque a fait diminuer considérablement à la fois l'incidence des pneumonies à pneumocoque et également de leurs complications, puisque c'est un germe qui s'accompagne facilement d'abcès pulmonaires, d'épanchements pleuraux qui sont parfois infectés. Et donc on sait dans les études, notamment en France, que ce vaccin a permis de faire reculer ce nombre de complications.
Alors, vaccination systématique en France. Tout à l'heure, on aura un de vos confrères en Côte d'Ivoire qui pourra nous expliquer si c'est la même chose là-bas. Quel est le calendrier vaccinal?
Alors, donc, on est sur une vaccination unique pour ces vaccins-là. Il y a des schémas pour compléter, parce qu'il existe deux vaccins contre le pneumocoque, et donc en fonction de si on a déjà été vacciné une fois, on peut éventuellement compléter cela avec un deuxième vaccin, mais ce sont des schémas un petit peu plus particuliers, et c'est bien évidemment le médecin traitant qui pourra le gérer. Mais sinon, voilà, on a un vaccin contre le pneumocoque qui est très efficace et qui est administré aux enfants de moins de 2 ans.
Alors, protection contre la pneumonie par le vaccin, on l'a bien compris, professeur Rica. Il y a aussi ces fameuses règles qui concernent l'hygiène de vie et aussi le cadre de vie. Beaucoup de questions tout à l'heure à ce sujet au standard de priorité santé. D'abord, l'hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie tous les jours pour se protéger de la pneumonie et d'autres virus et d'autres bactéries?
Alors, c'est évidemment l'hygiène des mains est un point clé. On l'a dit tout à l'heure dans tout ce qui est gastro-entérite, mais on le sait également en cas d'épidémie grippale, puisque le virus va se propager par des gouttelettes qui peuvent être également portées par les mains. Ça, c'est un point clé. Et puis, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, tout ce qui va être conditions respiratoires de l'endroit de vie, de l'environnement immédiat, donc l'aération. Et on sait également que tout ce qui est éléments de chauffage qui produit une pollution, certains poêles à bois, d'autres choses comme ça, sont des éléments qui peuvent favoriser les infections lorsqu'on a une exposition répétée et encore une fois lorsqu'on n'a pas pris la peine d'aérer correctement.
Alors quand on
pièces.
A une cuisinière à bois, par exemple quand on cuisine sur le bois dans la maison, important d'aérer, important peut-être même quand on a la possibilité de déplacer le réchaud à l'extérieur.
Tout à fait. On a, nous, quelques formes de pathologies qui s'apparente à la bronchopneumatie chronique obstructive qu'on voit chez le tabagique, qu'on voit chez des femmes justement qui ont pendant très longtemps fait cette cuisine traditionnelle au four à bois et qui présentent des symptômes assez similaires à cette fameuse BPCO. Et quand on les interroge, évidemment, elles nous disent qu'elles n'ont jamais fumé. Et le seul élément qu'on retrouve, c'est cette exposition, évidemment, sur de très nombreuses années à cette pollution par cette cuisine dans ces fours traditionnels.
Par ces particules de bois de combustion. Professeur Jean-Damien Rica, vous restez avec nous. On va tout de suite prendre la direction de la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Bernard Coffin-Goran, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service de pneumologie au CHU Cocody, président de la Société Ivoirienne de Pneumologie. Professeur Coffin-Goran, est-ce que vous avez des chiffres, des données au sujet de la prévalence de la pneumonie en Côte d'Ivoire?
Voilà, bien entendu, nous avons des chiffres mais qui ne reflètent pas le point national. Il y a quelques études parcellaires au niveau des hôpitaux qui montrent quand même que la pneumonie, c'est la deuxième cause d'hospitalisation dans 25 à 33% des malades que nous voyons chaque année. Dans les centres périphériques, c'est-à-dire en traitement de ville, c'est la première cause de consultation, la pneumonie.
Est-ce que c'est un motif de consultation très fréquent, professeur Coffin-Goran? Est-ce que c'est un motif fréquent d'hospitalisation?
Je disais tout à l'heure, c'est un motif très très fréquent de consultation dans les centres en traitement de ville, c'est-à-dire pour les formes peu graves qu'on suit en externe, c'est pratiquement la première cause de consultation. En particulier sur les enfants de moins de 5 ans, je pense qu'on pourra y s'attarder un moment, qui présentent un certain nombre de facteurs qui favorisent l'éclosion de cette pathologie. Sur les adultes également, c'est la deux causes en hospitalisation. Et là, il s'agit de formes graves du fait essentiellement de l'infection, l'importance de l'infection à VIH, parfois des difficultés d'alimentation équilibrée. C'est la deuxième cause d'hospitalisation, mais la première cause de mortalité sur l'adulte chez nous.
Donc, très, très important. Il y a une question qu'on a posée tout à l'heure au sujet de la vaccination, notamment la vaccination des enfants. Professeur Bernard Coffin-Goran, est-ce qu'aujourd'hui, les différents vaccins sont accessibles pour tous les enfants en Côte d'Ivoire?
Oui, la vaccination constitue un volet préventif extrêmement important, et en Côte d'Ivoire, il y a le programme de vaccination élargie qui est systématique, qui permet de couvrir la plupart des enfants. Et cette vaccination va concourir avec d'autres actions à la prévention de pneumonie. Parce qu'il y a un certain nombre de facteurs particuliers dans notre contexte. En dehors des facteurs classiquement connus, nous avons par exemple la pandémie de l'endémie de la rougeole, de la coqueluche, quoique ça c'est de plus en plus rare, mais l'infection à VIH, le tabagisme passif qui croît dans notre environnement également, la proximité, et puis le logement insalubre, mal aéré, la malnutrition, et puis vous avez une pathologie particulière telle que la drépanocytose qui va favoriser les infections, les pneumonies chez ces enfants.
En affaiblissant généralement l'organisme. Professeur Coffin-Goran, est-ce qu'il y a des moments dans l'année où les enfants sont plus vulnérables justement aux pneumonies?
Oui, il y a deux grandes périodes. Il y a l'une des périodes que nous vivons actuellement et qui va atteindre son point culminant au mois de décembre, janvier, que nous appelons l'harmattan, qui est constitué essentiellement de micro-organismes, véhicules qui viennent du Sahara et du désert. Et c'est la deuxième période, c'est la période de la grande saison des pluies qui va habituellement du mois de mai à mi-juin. Et c'est pendant ces deux périodes, nous avons une augmentation importante des cas de pneumonie.
Est-ce que vous constatez que certains patients, quand ils viennent consulter, eh bien, arrivent un petit peu tard, professeur Coffin-Goran? Est-ce que vous pouvez parler, en particulier pour la pneumonie, d'une quantité importante de retard de diagnostic?
Ah oui, c'est le quotidien que nous vivons, puisque moi je suis dans un CHU, donc à l'hôpital, et nous voyons, je vous ai dit, c'est la deuxième cause d'hospitalisation.
Ça veut dire qu'avant, les patients sont allés, par exemple, chez le tradipraticien, n'ont pas reçu le remède adapté et arrivent un petit peu tard pour vous voir?
Il y a un peu de tout. Nous avons évalué l'itinéraire thérapeutique. Bizarrement, ce qu'on croit, paradoxalement, ce qu'on croit, ceux qui sont allés chez un tradipraticien de...
On a perdu la ligne, on n'entend plus. On va essayer de rejoindre le professeur Coffin-Goran pour poursuivre cet échange avec la vision justement d'Abidjan sur cette maladie infectieuse. On vous retrouve en studio, professeur Jean-Damien Ricard. On évoquait tout à l'heure justement le conditionnement entre le niveau de développement. C'est absolument essentiel quand on parle par exemple de malnutrition et du développement de ces maladies infectieuses. C'est quelque chose qu'on voit. Plus on meurt beaucoup plus de pneumonie, on va dire, dire, dans les pays du Sud qu'aujourd'hui, en Europe, dans les pays occidentaux, les pays dits développés.
Tout à fait. Il y a une vraie fracture nord-sud dans les infections pulmonaires. C'est extrêmement, extrêmement clair. On peut avoir des taux de mortalité qui varient de 1 à 500 pour 100 000 cas. Donc ça fait vraiment une variation très importante. Et je voulais juste revenir, puisque votre question à mon collègue m'a fait rappeler un élément clé sur, puisque vous parliez de retard thérapeutique, c'est évidemment un gros souci pour nous, et un certain nombre des formes graves que nous voyons en réanimation justement sont liées à un retard thérapeutique. Et je voulais alerter nos auditeurs sur la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont des médicaments donc contre la douleur et la fièvre qui sont extrêmement puissants. Donc la question n'est pas du tout de remettre en cause leur efficacité, bien au contraire, ils sont très efficaces, mais vous comprenez bien que lorsque vous présentez des signes qui comprennent la fièvre, des douleurs un petit peu partout, les myalgies dont on a parlé, qui sont en rapport avec une pneumonie, et que vous prenez ces anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Est-ce que vous parlez par exemple d'ibuprofène ?
Tout à fait.
Alors on dit le nom pour que les auditeurs aient bien la molécule en tête.
Voilà, ça peut être de l'Advil chez les enfants. Voilà. Ils vont être très efficaces sur la douleur, sur la fièvre, et du coup on va avoir le sentiment pendant quelques temps d'aller mieux, alors que l'infection est en train de se développer,
se
majorer. Donc ça masque, et du coup ça retarde à la fois le moment où on va aller finalement chez le médecin parce qu'on va pas bien du tout, et du coup de fait la prise d'antibiotiques. Et donc nous avions fait une étude dans le service où nous avions très clairement montré qu'il y avait ce retard de quelques jours de prise d'antibiotiques lié à ces médicaments. Encore une fois, qui sont très efficaces.
Oui, mais c'est encore une illustration de certains dangers de l'automédication.
Tout à fait.
Alors, on va retrouver le professeur Bernard Coffin-Gorand, parce qu'on n'a pas terminé avec vous, professeur. Justement, est-ce que on a parlé tout à l'heure de la vaccination. Vous nous avez dit en Côte d'Ivoire, pas de soucis de ce côté-là, les enfants sont bien vaccinés. Du côté des traitements, professeur, est-ce que les traitements sont bien disponibles ?
Alors, le traitement curatif, puisque dans la plupart des cas, il s'agit de bactéries, il s'agit d'autres agents, mais les antibiotiques sont disponibles, c'est-à-dire vous les trouvez en officine privée comme en office à l'hôpital. Le gros problème, c'est l'accessibilité, parce que nous n'avons pas de couverture sanitaire générale et chacun est à sa fait d'hôpitaux à sa charge. Alors ce qui rejoint un peu le retard thérapeutique, et on en parlait tout à l'heure, et parmi les lots, le lot de patients qui arrivent très tard à l'hôpital et donc qui sont dans une situation très grave, qui grève la mortalité, nous avons bien entendu l'automédication. La part des tradis praticiens, on a été surpris dans nos études que ça ne représentait pas plus de 20%. Par contre, il y a les croyances, ou plutôt, qui font que les patients ont plutôt recours à d'autres thérapeutiques spirituelles, et ainsi de suite. Et également, le fait peut-être de méconnaître la maladie en disant « bon, ça va passer » et voilà. Et ils arrivent, ce sont des maladies qui évoluent très rapidement et quand vous arrivez, vous avez les aveugles qui sont remplis de pus et de liquide et ils arrivent à des stades, malheureusement, où l'antibiothérapie n'a pas le temps d'agir puisque 60% de nos décès s'observent dans les 24 premières heures.
On voit donc maladie avec une évolution très rapide. J'ai une dernière question, professeur Coffin-Gorand. Tout à l'heure, vous évoquiez justement cette absence de couverture santé universelle dans votre pays, on l'a bien compris. Par contre, pour les moins de 5 ans, est-ce qu'il y a un programme spécifique de prise en charge ? Quand une maman arrive à l'hôpital avec un bébé, quand il y a une pneumonie, est-ce que là, les antibiotiques vont être délivrés de façon gratuite ou pas ?
Il y a actuellement un système qui permet de prendre en charge les enfants de moins de 5 ans et puis les femmes dans les maternités. Il y a un programme un peu spécial mis au point par le gouvernement. Mais en dehors de ça, tous les autres patients, en particulier les adultes, ont en charge les frais de santé.
Donc ce qu'on peut dire aux mamans qui nous écoutent, qui sont à l'écoute de Priorité Santé, si elles ont des doutes sur la santé respiratoire de leur bébé, c'est plutôt aller vers des services de maternité pour présenter ce bébé à un service pédiatrique, à une infirmière, pour justement éventuellement voir quel diagnostic faire et quel traitement prendre. Eh bien, on a eu beaucoup de mal ce matin avec cette liaison avec Abidjan. On n'aura pas la réponse à cette question. En tout cas, on remercie infiniment le professeur Bernard Coffin-Goran, chef de service de pneumologie au CHU de Cocody. Le professeur Ngoran qui est également président de la Société ivoirienne de pneumologie.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Alors, on le disait tout à l'heure, les cas, les complications extrêmes de pneumonie, vous travaillez notamment en service de réanimation. Le milieu hospitalier prend des mesures particulières justement pour éviter la contamination des patients qui sont, on va dire, déjà en situation précaire de santé, qui arrivent en réanimation pour qu'il n'y ait pas de contamination par la pneumonie. Je vous pose ces questions parce qu'en préparant l'émission, professeur Jean-Damien Ricard, j'ai vu qu'il y avait toute la problématique, par exemple, de l'intubation et des microbes qui pourraient se trouver dans ces systèmes. C'est un petit peu compliqué, mais on va expliquer ça aux auditeurs.
Tout à fait. On fait la distinction entre les pneumonies communautaires dont on vient de parler, qui sont celles qu'on a en ville chez soi, des pneumonies qu'on acquiert dans un milieu de soins comme l'hôpital, sont les fameuses infections nosocomiales. Et donc, chez les patients qui sont en réanimation, et notamment ceux qui sont sous respiration artificielle, ils ont une sonde qu'on appelle une sonde d'intubation qui va relier directement le respirateur à leurs poumons, et donc ça altère complètement les barrières naturelles qui s'opposent à ce que les germes puissent gagner le poumon, notamment au niveau de la glotte, puisque on est capable de tousser et d'avaler correctement pour éviter de façon à ce que les germes de la bouche aillent dans le poumon. Lorsqu'on a cette prothèse en plastique qui est dans la trachée, évidemment, la glotte ne joue pas ce rôle de barrière anatomique, et donc on a un certain nombre de sécrétions oropharyngées qui peuvent se contaminer et du coup atteindre le poumon profond et entraîner ce qu'on appelle donc une pneumonie nosocomiale. Donc on a un certain nombre de mesures qui sont faites pour éviter cela. Ça passe par des soins de bouche, et ça passe par un certain nombre de postures également des patients dans le lit pour essayer de limiter au maximum ce passage de germes depuis la cavité oropharyngée vers le poumon profond.
Alors, on a compris tout à l'heure qu'il y avait en fait plusieurs formes de pneumonie. La légionellose, la légionelle, est-ce que c'est aussi une pneumonie? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais comprendre la différence entre la bactérie, on va dire, ordinaire, même s'il y en a plusieurs, et cette légionelle.
Alors, cette bactérie particulière, puisqu'elle, son habitat naturel, c'est l'environnement, c'est la terre et l'eau, donc c'est une bactérie dont on dit tellurique, et qui a comme particularité de se développer particulièrement bien dans les ambiances chaudes et humides, comme les systèmes de climatisation, les réseaux d'eau chaude. Il y a de la légionelle dans les réseaux d'eau chaude des grandes agglomérations.
Et ça impose un traitement particulier, un antibiotique, on va dire, particulier? Qu'est-ce que ça change?
Alors, on a des mécanismes de désinfection de ces réseaux d'eau chaude à l'hôpital, par exemple, qui peuvent comprendre des systèmes où on adjoint des doses de chlore régulièrement au réseau d'eau. Mais c'est ce qui explique également ces épidémies. Et donc, lorsqu'on a un patient pour lequel on va identifier une légionelle, il est très très important de faire une enquête sur l'habitat de ce patient, et assez souvent on va retrouver parfois des travaux sur les réseaux d'eau dans un immeuble par exemple, ou un contact avec ces systèmes de climatisation, parce qu'encore une fois c'est un aspect très particulier de cette bactérie qui se développe dans les milieux chauds et humides.
Alors en France en ce moment, novembre, on a consacré une émission la semaine dernière, c'est le mois sans tabac. Donc on m'a encore rappelé, parce que je fais un petit peu de la... J'insiste là-dessus, danger de la cigarette. On parle du cancer du poumon, on parle de toutes ces pathologies pulmonaires, mais là aussi, on parle aujourd'hui de la pneumonie. Très important de le répéter, si vous ne voulez pas tomber malade, professeur Jean-Damien Ricard, eh bien, oubliez la cigarette. Faites-vous soigner pour arrêter la cigarette.
Tout à fait, je pense que lorsqu'on a présenté un épisode de pneumonie et qu'on est fumeur, c'est un très bon moment pour essayer de prendre conscience des dangers du tabac et d'essayer d'arrêter de fumer. Je crois que c'est un élément. Et puis, lorsqu'on n'a évidemment pas encore présenté de pneumonie, eh ben, il faut profiter, par exemple, de cette émission pour aller consulter et faire un programme de sevrage du tabac.
Pour se faire aider, merci beaucoup, professeur Jean-Damien Ricard, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes adjoint au service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. On va parler nutrition maintenant dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Aujourd'hui, on va parler bien manger et pour nous aider en cela, eh bien, il existe des labels. Alors, première question, Stéphane Besançon, quels sont les principaux risques santé liés à notre alimentation? Pour parler clairement, quand on mange mal, qu'est-ce que l'on risque exactement?
Alors, on distingue deux risques principaux. Alors, le tout premier, c'est celui qui est lié à la mauvaise alimentation, lié au mauvais équilibre alimentaire. C'est-à-dire que si on a une alimentation qui est trop grasse, trop sucrée, trop salée, avec un excès de calories, eh ben on va avoir là un effet de facteur de risque sur l'obésité, sur le diabète, sur certaines maladies. Donc là, on a un risque direct lié à l'équilibre alimentaire. Alors après, la deuxième chose aujourd'hui qui est de plus en plus discutée, c'est, je vais dire, la sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, toutes les substances qu'on peut retrouver dans notre alimentation. Alors on sait par exemple aujourd'hui que les végétaux qu'on va manger ou d'autres produits qu'on va manger ou comme l'eau qu'on va boire peuvent être contaminés mais par les produits phytosanitaires des cultures. On sait aujourd'hui par exemple que pour la viande ou d'autres produits, on peut avoir aussi des perturbateurs endocriniens liés au mode de production.
Alors justement, comment s'y retrouver? Comment choisir des aliments de bonne qualité?
Alors il y a différents labels qui vont nous permettre de nous aider à choisir ce qu'on veut manger. Alors déjà, si on va sur la qualité, j'allais dire sanitaire des aliments, pour être sûr qu'un aliment est le moins contaminé possible par des produits phytosanitaires, il y a un label qui s'appelle le label agriculture biologique, AB, qu'on a l'habitude de voir sur les packages, qui est un label qui est assez vieux, hein, puisqu'il date de 1985, et qui va permettre de s'assurer que ces aliments sont d'une culture biologique, c'est-à-dire sans produits phytosanitaires. Et on a aussi les labels qui vont être plus sur la qualité du coup de l'équilibre alimentaire, comme par exemple le Nutri-Score.
Nutri-Score, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ce terme, de ce modèle justement, qui permet un peu de savoir ce qu'on a plus tard dans notre assiette?
Alors, il faut savoir que ça va concerner les aliments transformés ou ultra transformés. C'est important de les cartographier, de savoir comment on consomme, parce qu'ils ont quand même la réputation d'être à la fois pas avec une très bonne composition, hein, souvent trop gras, souvent trop salé, trop énergétique, et il manque beaucoup de micronutriments. Donc c'est extrêmement important de savoir que ces aliments sont présents dans notre paquet, j'allais dire, dans ce qu'on va acheter. Donc le Nutri-Score, c'est un label en fait qui va jouer avec les couleurs et qui va en fait avoir des couleurs de plus en plus du vert vers le rouge, on va dire, si l'aliment est de plus en plus mauvais, mais avec des lettres aussi de A vers le E. Et du coup, par exemple, un aliment qui va être peu transformé, qui va plutôt être bon, va avoir un A qui va être vert. Et inversement, après, on aura un rouge. Et il faut savoir que ce label qui a été testé en 2016 a donné de bons résultats. Et il est aujourd'hui recommandé par le gouvernement depuis 2017. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant.
Alors, il existe d'autres types de labels, hein, comme par exemple les AOP ou le label rouge.
Alors oui, alors là on va être sur plus sur la l'origine ou la qualité du produit, mais plus la qualité en comparaison à d'autres. Alors les AOP, c'est les appellations d'origine protégée, donc ça va nous dire que un produit vient bien d'une certaine région, qu'il a bien été produit avec les produits de la région et suivant des modes opératoires bien précis. Donc là, ça va nous donner, j'allais dire, un label qualité de provenance et de comment c'est préparé. Et le label rouge, qui est un autre label, lui, va nous garantir qu'à produit égal, par exemple, deux marques d'un certain produit, eh ben, celui qui a le label rouge va être de meilleure qualité que l'autre. Il y a une labellisation qualitative. Donc ça nous donne un ensemble de labels qui permettent de faire des meilleurs choix alimentaires sur l'ensemble de la chaîne de ce qu'on peut acheter.
Merci beaucoup, Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. À très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Merci à tous les trois. Et demain, eh bien, nous allons parler des essais cliniques. Si vous voulez témoigner, posez une question sur ces essais très importants pour la fabrication des traitements, des médicaments. Notre numéro de téléphone, 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'est Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.